Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne. Et qu'y a-t-il donc au programme pour cette séance ?
Au sommaire de cette émission, en première partie, une rubrique que j'ai intitulée, en anglais, je vais essayer de prendre mon bon accent, Lifeless Literature, c'est-à-dire la littérature de ceux qu'on a privés de vie, qui n'ont plus de vie. Voilà. Dans la deuxième partie, Jacques nous parlera d'un auteur italien qui est certainement l'auteur de romans noirs le plus célèbre en Italie, mais je crois aussi, on peut dire, en Europe. Et puis, il y aura aussi une petite rubrique avec quelques news du polar, quelques animations et festivals.
Donc les Lifeless Literature.
Bravo, c'est mieux dit que moi. Voilà, je vais vous parler donc de deux romans qui ont bien des similitudes. Le premier s'appelle Bienvenue à Auckland. Le deuxième s'appelle Sur les nerfs. Et pour tout vous dire, les deux livres, ce ne sont pas des livres consensuels, ni des livres écrits pour séduire. Pourtant, moi, ils m'ont vraiment complètement enthousiasmée, et je dirais qu'ils vont laisser une trace très longtemps dans mon esprit. Si je vous parle en même temps de ces deux livres, c'est qu'ils ont pas mal de points communs. D'abord, ils sont tous les deux publiés chez Fayard. Tous les deux traduits par Alexandre Tilges, ils se passent aux États-Unis, en Californie. Le premier, donc je vous ai donné le titre, Bienvenue à Auckland, a été écrit par Eric Miles Williamson. Il est sorti il y a quelques mois, et je me demande pas bien pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Mais enfin, je me rattrape. Le deuxième, qui s'appelle Sur les nerfs, est de Larry Foundation. Et là, c'est un livre qui vient de sortir. C'est même le premier livre traduit de cet écrivain américain. Je dirais que ces deux livres sont deux livres noirs comme on les aime. Deux livres qui parlent des oubliés, des laissés pour compte, des losers de cette Amérique dont on nous montre souvent que les paillettes de Hollywood, en délaissant les banlieues, ces banlieues où nul avenir ne semble envisageable, où le passé est empreint d'une violence inouïe et où le présent s'évapore dans les fumées de crack ou les vapeurs d'alcool qui vous grillent le cerveau. Ces deux livres qui ont aussi comme point commun de ne pas vraiment raconter d'histoire. Surtout, comme je le dirai tout à l'heure, le Larry Foundation. Mais qui sont en fait des instantanés de vie. Tant il semble que dans ces quartiers, il n'y ait que des fragments de vie, des bribes, des instantanés, qu'il n'est donc pas la peine de raconter le reste. Donc, je vais vous parler de T-Bird Murphy, qui est le narrateur de Bienvenue à Auckland. Il est né dans le ghetto d'Auckland, face au beau quartier de San Francisco. Et T-Bird, depuis son enfance, essaie de s'en sortir. Peine perdue. Il est marqué physiquement, mentalement, depuis sa tout petite enfance. Et il s'enfonce inexorablement, pourtant c'est pas l'anglais ça, pour finir dans un box de parking glacial, envahi de rats et autres bestioles. Et là, il va nous raconter. Il nous raconte ses potes, camés, alcoolos, truands, ses ennemis, idem, et puis sa famille. Ses deux frères morts dans des conditions atroces, sa mère complètement folle alliée qui s'est tapé tous les Hells Angels de la ville. On rappelle d'ailleurs que c'est à Auckland qu'il y a la maison mère des Hells Angels. Et puis, il y a Pop. Pop, c'est le beau-père. Laminé par son mariage avec la folle, celle dont je viens vous parler, Pop qui tient un garage et qui sait jouer de la trompette aussi bien qu'un black. Et dans ce quartier, c'est bien vu de savoir jouer du jazz comme les blacks, parce que le racisme, il est un petit peu à l'envers. Dans le roman, Pop va se remarier avec une pute, carrément. C'est pas grave, il l'aime, elle l'aime aussi. Qu'est-ce qu'on demande de plus ? On a ainsi des moments marquants, des moments marqués au fer rouge, que nous livre T-Bird, des initiations, au fur et à mesure, arnaque, boulot, sexe, musique. Il nous parle de ses amis, en tôle ou mort, ou c'est tout comme. Présenté comme ça, on a vraiment l'impression que je vous parle d'un texte triste, misérabiliste, une complainte. C'est tout le contraire. Le récit est dense, rapide, brutal, d'une violence parfois insoutenable par les conditions de vie qu'il décrit. Williamson, je dirais qu'il vomit son texte et ses blessures en une narration qui est complètement incandescente. Tout y passe. La société, bien sûr, évidemment. en premier, mais le lecteur qui fait partie de cette société. Il tape aussi sur la littérature. Il y a quelques belles envolées sur quelques grands écrivains américains. En gros, il ne sauve qu'une chose, les potes du quartier et puis la musique. C'est d'ailleurs parmi les plus belles lignes écrites sur le jazz et le blues qu'il m'ait été donné de lire. Aussi, pour moi, ce roman, c'est un très grand roman d'amour. Pour Pop, son beau-père, ses amis, comme je l'ai déjà dit, et aussi pour les humains. Il souffre pour ses semblables et il le crie dans ce magnifique texte. Jusqu'à la scène finale du mariage de Pop, totalement psychédélique, avec un débordement de nichons et de coups qui pleuvent en tout, de part et d'autre, c'est impressionnant. Et puis apparaît, à la fin, un corps de femme, un visage de femme, qui pourrait ressembler à une sorte de rédemption. Voilà, je vous en dis pas plus, donc ça s'appelle « Bienvenue à Auckland » d'Eric Miles Williamson. Et avant de vous parler du deuxième roman, je vais laisser Jacques vous présenter le morceau de musique que nous allons écouter ensemble.
Donc, le morceau s'appelle « As Time Goes By », que vous connaissez certainement puisqu'il a été la musique d'un film très très célèbre. Mais il sert aussi de musique de fond à la scène finale dont parle Corinne pour le mariage de Pop, si je ne m'abuse.
Oui, je vous en lirai un petit extrait juste après la musique.
Et donc, mais par contre, comme une émission la plus rock de la bande FM, on se plaît à le rappeler, eh ben, on va faire cette chanson interprétée par un fameux groupe du sud des États-Unis, ZZ Top. Et donc, c'est un morceau qui est caché, en fait, dans le CD Mescaleros qui est paru en 2003, La Dernière Plage. As Time Goes By.
Apply as time goes by.
Et pour ceux qui en douteraient, le morceau était bien passé à la bonne vitesse.
Voilà. Donc, comme promis maintenant, je vais essayer de lire à la bonne vitesse l'extrait du roman qui parle de ce morceau de musique. Donc, c'est presque à la fin. Et comme je vous l'ai dit, c'est le mariage de Pop. Un prêtre assez étonnant vient de bénir son union et il va jouer. Pop a rejoint le groupe et ils ont arrêté leur connerie de disco au milieu d'un riff. Les amplis bourdonnaient, personne ne mouffetait. Pop a sorti son cuivre de son étui, on voyait le métal briller à travers la couche de suie. Pop avait les mains incrustées de graisse, pourtant il avait dû se les frotter pendant des heures. Il a pris le micro, annoncé « Ce morceau est dédié à ma salope préférée ». Parenthèse, c'est de sa femme dont il parle. Hein. Fin de la parenthèse. Et le groupe a foutu le paquet sur un blues lent, « As Time Goes By », bien cradingue et sexy, qui dégageait toute la tristesse, la joie, la douleur et la patate de notre coin, notre Auckland, ses quais, ses jetées, ses usines, ses voies ferrées, les fumées de l'abattoir et la puanteur âcre de l'usine Hershey qui devenait, on ne sait comment, du chocolat. L'usine General Mills qui te retournait l'estomac quand tu passais à côté. La tristesse des survivants chinois, nègres et japonais qui avaient été enfermés dans des camps. Et celle des Hokies de notre espèce, ces malheureux qui avaient débarqué en Californie comme des crevards, en quête désespérée de quelques arpents de vignes et de terre qui donneraient un peu de vin et de grain. Et le rythme de la musique, les montées de la basse, les accords lents, étouffés de leur gamonde, coulaient comme le jus visqueux à la fin de la nuit, après une longue journée de baise. Mon pote, ces gars, ils te couchaient ça comme s'il ne restait plus de tout l'univers que cette chanson qu'ils étaient en train de jouer, le chant sublime, tout puissant, de la baise, la baise, la baise. Voilà, il y en a 8 ou 10 pages comme ça, et c'est parmi les plus belles pages sur le jazz et le blues, comme je l'ai dit, qui m'était donné de lire, c'est sublime. Mais les 400 autres pages sont aussi étonnantes. Je vous ai annoncé un deuxième roman, il est temps que je vous en parle. Donc ce deuxième roman, c'est Sur les nerfs. Et lui, pour ce livre, j'ai trouvé que c'était de l'instant littérature, comme on disait, l'instant art pendant un temps, des espèces de shortcuts à la Raymond Carver ou filmé par Robert Altman. On n'a carrément pas de personnages principaux. Je dirais des silhouettes vagues, d'hommes et de femmes à la dérive, à un instant de leur vie. Des potes préparent un coup, mais le premier va éliminer le deuxième qui en sait trop. Des femmes qui prennent des coups, qui font la pute, qui se calment, qui élèvent leurs gosses à la va comme je te pousse. Comme le dit l'écrivain, c'était notre chez nous, un endroit où se défoncer, où parler et grandir, et baiser. Là encore, comme dans le premier roman, pas d'apitoiement, ni de larmoyance, voire de compassionnel. Larry Foundation, lui-même qui est médiateur de quartier à Los Angeles, nous livre ses flashs de vie bruts de découvrage. De décoffrage, oulala, ça va pas. Bruts de décoffrage d'une plume qui va à l'essentiel. Pour l'écrivain, ses tags littéraires décrivent bien mieux la société dans laquelle il évolue depuis sa naissance qu'un récit linéaire. À condition que ces images fugaces, dit-il, forment un tout supérieur à la somme des parties. Et je peux vous assurer une chose, il a réussi, c'est très très bien. En lisant ces deux romans, en fait, j'ai eu un petit peu l'impression de découvrir un nouveau courant littéraire états-unien, qu'on avait déjà entreaperçu avec des écrivains comme Ron Rash ou bien encore William Gay. Mais, je vous le rappelle, vous avez peut-être complètement oublié. Ces livres, comme les anciens, c'était plutôt du nature writing, c'est-à-dire que ça se passait dans les grands espaces de l'Ouest américain ou d'une Amérique profonde. Et finalement, si on y réfléchit bien, ces romans, c'est pas si nouveau que ça. Des romans qui émergent, qui sortent d'une récession économique. Maintenant, on dirait la crise. On revient au fondement même du roman noir, hein. On revient à Moisson Rouge de Dashiell Hammett, écrit en 1929, hein, je le rappelle, plein moment de la crise. Et puis, on a aussi, en dehors de la littérature noire, bien que pour moi, c'est la littérature noire, les romans de Steinbeck, les romans de Faulkner. Et en conclusion de cette rubrique sur ces deux romans de Fayard, je pourrais dire qu'une chose, malheureusement, le roman noir a de l'avenir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc je vais vous rappeler les références de ces deux romans, puisqu'il me reste quelques instants. Le premier, Bienvenue à Auckland, un livre sorti en juin 2011, me semble-t-il. C'est un livre écrit par Eric Miles Williamson, c'est sorti chez Fayard, et la traduction est d'Alexandre Tiltschust, j'espère que je prononce bien.
Il a aussi traduit.
Le même traducteur, a brillamment, parce que c'est pas du tout évident, mise en scène, comme mise en français, les bribes.
Les fragments,
merci. Sur les nerfs, c'est un premier roman traduit, donc de Larry Foundation. Voilà.
Ça s'écrit Larry comme Larry avec et Fondation, en fait.
Oui, mais je trouvais que ça faisait assez bête de dire oui, Larry Fondation.
Mais bon. Oui, mais ça permet peut-être de mieux le chercher.
Comme si j'avais dit Eric Mille.
Oui, mais.
Williamson.
Oui, mais enfin, on dit Miles, c'est depuis.
Oui, depuis Davis.
Depuis Davis.
Oui, mais là, on retourne dans le jazz. Bon, on va se retrouver dans la deuxième partie d'émission pour vous parler de quelques news et on revient en Europe pour la littérature.
Et ça sera quand même un tout petit peu plus gai.
Bye bye, à tout de suite.
Les infos.